RMC.
C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
L'after, jusqu'à 23h.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
François Pinet.
C'est parti pour l'after. Ravi de vous retrouver. On est ensemble pendant 2 heures pour parler de foot, pour faire le tour de l'actualité football. Et ça a bien débuté avec le trophée des champions. On va y revenir longuement, évidemment. La victoire du Paris Saint-Germain face à l'AS Monaco. Pour en parler autour de la table dans le studio BFM Sport et RMC, Jonathan Macardy, l'indice de masse graisseuse le plus avantageux du PAS.
Oui, bonsoir François.
Bonsoir Jonathan.
Merci, j'aime beaucoup cette introduction.
C'est parce que tu en parlais juste avant l'émission.
Ouais,
et donc
tu
il a combien ton indice de masse graisseuse?
Il a fait 9,7.
Et c'est bien ça?
Bah oui, c'est
parce que je t'avoue que juste avant l'émission, j'ai fait sur une petite application pour savoir si moi mon indice de masse graisseuse convenait et on m'a dit attention, trop de graisse.
Est-ce que pourtant, tu vois
j'ai l'impression d'être affûté.
Est-ce que tu vois tes abdos?
Mes abdos, je les ai jamais vus, mes abdos.
Ah bah, t'es pas affûté du tout, t'es gros, t'es gras.
Non, c'est
t'es grassouillé.
Pas...
Si, t'es grassouillé.
Pas du tout, j'ai
pas
l'impression.
Mais c'est pas grave, si tu bien dans ton corps.
Ah, je suis très
si
bien.
Si madame trouve ça bien.
Mais madame est très contente. Enfin, j'espère. Ou en tout cas, elle me le dit pas.
Eh ben, je t'enverrai une photo de moi torse nu, tu le montreras, tu demanderas de. Non, je déconne.
Jonathan avec nous, et en face de toi, il va falloir être sympa, Jonathan, un petit nouveau Jordan Olivier. Salut Jordan.
Bonsoir François. Bonsoir Jonathan.
Salut.
Et moi,
ça...
mon indice de masse,
j'ai pas fait le test, il faudra que tu me donnes ton poids, ta taille.
Je dirais 15-16 hein, mon pote encore.
Oh là là,
il y a du travail, il y a du travail.
Alors, pour tout vous dire, Jordan Olivier ne devait pas être là aujourd'hui. C'est Samuel Hippoy qui devait être à ta place, mais il est coincé dans le train.
Mais
en tout cas, c'est ce qu'il dit.
Je suis ravi d'être avec vous en tout cas.
Ah bah non,
mais Samuel, s'il nous écoute,
tu sais que tu es
reste coincé dans le train.
Tu sais que tu es la seule personne qui a réussi à remplacer Samuel, puisque en général, c'est Samuel Hippoy qui remplaçait les gens.
C'est
hein.
Vrai.
C'est lui qui débutait sur le banc.
Donc, attends, c'est que le début, on s'en
fout.
C'est
déjà très très bien. Avec vous, c'est peut-être toi d'ailleurs qui a bloqué le train.
Ah non, j'ai pas ce pouvoir là, mais écoute, j'y penserai pour la prochaine fois.
Avec vous, Jordan et Jonathan, on va revenir évidemment, je vous le disais, sur le trophée des champions remporté par le PSG 4-0 aux dépens de l'AS Monaco. On a plein de questions à vous poser. Est-ce que le PSG version Tourelle vous a convaincu? Des joueurs comme André Di Maria ou Christopher Nkunku ont-ils une bonne carte à jouer pour cette saison? Est-ce que le PSG a d'ailleurs encore intérêt à recruter alors que pour l'instant c'est vrai que le mercato est plutôt
calme? C'est
une
bonne question ça.
C'est une vraie question et c'est pour ça qu'on la pose dans l'after. Évidemment, on s'intéressera aussi au cas de l'AS Monaco. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas du tout alors que c'était une équipe bis de l'AS Monaco qui a perdu contre le PSG? Et puis à 22h, retour sur le dernier match de préparation de l'Olympique de Marseille avant le début de la saison. Une large défaite, 5-2 face aux Anglais de Bournemouth. On en parlera évidemment sans oublier le Mercato Show. Mélanie Ferreira viendra avec nous pour nous donner les dernières infos du Mercato avec notamment un nouveau départ du côté de Lille. On vous attend nombreux au 32-16 sur le hashtag RMC Live sur Twitter et sur Direct Studio sur l'appli RMC. Vous nous envoyez vos messages et on les lira pendant cette émission. Tout de suite, on va revenir dans l'after sur Paris Saint-Germain Monaco, mais peut-être que vous n'avez pas entendu ou pas vu cette image. Eh bien, on va vous la montrer. C'est celle de Thomas Tuchel en conférence de presse. Après le match, il est en conférence de presse et la surprise, eh bien, des joueurs du Paris Saint-Germain le bizutent un petit peu.
I'm a hot air balloon.
Voilà, le bizutage consistait à demander à Thomas Tuchel une chanson et il s'est donné à fond. Hein.
Ouais.
Pour ceux qui n'avaient pas l'image, qui nous écoutent à la radio, il était comme un dingue, c'est lui hein, que vous avez entendu chanter en allemand. Mais ça prouve quand même quelque chose, c'est que visiblement il y a de l'amour entre Thomas Tuchel et son effectif. En tout cas, c'est ce que semble dire Marco Verratti. C'était juste après la rencontre interrogé par nos envoyés spéciaux à Shenzhen. Écoutez.
Et comme entraîneur, je pense que c'est encore très tôt pour le juger parce qu'on a fait seulement qu'à moi et on aura le temps pour voir comment ça passe, mais il est vraiment un grand personne, il est vraiment proche de jouer, on voit aussi qu'il a joué, qu'il a joué pas, il était avec les souris et ça je pense que c'est la façon mieux pour bien travailler, être bien, respecter les coachs, c'est vraiment une chose importante.
Tout le monde s'aime au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est juste pour l'image? Est-ce qu'on peut vraiment le croire?
Écoute, franchement, je pense que ce groupe, quand on le regarde, en fait, dans sa construction, il y a quand même des joueurs qui sont là depuis très longtemps. Verratti, Thiago Silva, ça fait des années que ces joueurs sont là. Et je pense qu'ils ont connu, ils ont connu Laurent Blanc, ils ont connu pour certains Carlo Ancelotti, ils ont connu Unai Emery, ils ont connu surtout beaucoup de d'échecs dans leur objectif qui était, qui est la Ligue des Champions. Et je pense que ils sont plutôt, je pense que c'est un groupe de joueurs qui est intelligent et je pense qu'ils ont compris qu'il fallait changer quelque chose, peut-être dans leur comportement, dans leur approche vis-à-vis de leur coach. Et Tourelle, alors on sait que ça va être ça va être peut-être un petit peu, il va peut-être avoir un petit peu de friction parce que c'est un entraîneur qui va être dur, qui va être sévère, mais j'ai l'impression que c'est le moment idoine pour ce groupe-là d'avoir un entraîneur comme ça. Et donc c'est vrai, c'est que le début. Quand tu rencontres quelqu'un, c'est toujours beau tout rose, et puis après au bout de deux mois, ça change un petit peu. Mais on l'a tous connu ça. Mais je pense vraiment qu'il y a une bonne ambiance et que le groupe est à un moment de son histoire, de sa narration, de son histoire collective, où avoir un entraîneur comme ça peut leur convenir.
Il y a une vraie différence entre Tourelle et Unai Emery. On a l'impression qu'en tout cas les joueurs, mais ça il faut se méfier de ce que disent les joueurs. À chaque fois, c'était la même chose avec Unai Emery. Tout le monde disait Unai Emery est formidable, et là ils disent la même chose.
Si je peux me permettre, Jonathan, je pense qu'il faut pas être naïf non plus. Ce bizutage a été fait en zone mixte, a été fait devant les caméras. Ils auraient pu aussi le faire dans le vestiaire. Ils l'ont peut-être fait. Je ne dis pas le contraire. Mais le Paris Saint-Germain, joue quand même sur cette image. Tout le monde est soudé entre les joueurs et l'encadrement. On a vu des photos sur Instagram, notamment quand Neymar a rejoint ses coéquipiers en Chine, une photo où il prend Tourelle dans les bras. Faut faire attention. Je dis pas que la démarche n'est pas sincère, mais on a l'impression que le Paris Saint-Germain.
Je vais vous donner deux cas qui font qu'à mon sens c'est sincère. Le premier, c'est Adrien Rabiot. On sait qu'il va prolonger, qu'il va rester au PSG alors que c'était pas gagné. On sait que Tourelle lui a beaucoup parlé et que d'une part, Rabiot a été convaincu par l'ambiance et la qualité des entraînements que Tourelle proposait, ça a joué dans la balance. Et d'autre part, on sait que ce qui l'a convaincu, c'est les discussions qu'il avait avec son entraîneur et moi les échos que j'en ai eu, c'est que il a envie de jouer pour cet entraîneur là. Donc ça prouve bien qu'il y a quand même une ambiance qui est quand même relativement bonne et qu'il y a une bonne connexion entre le coach et ses joueurs. Le deuxième exemple concret, c'est Marco Verratti. Est-ce que vous avez vu Verratti revenir aussi affûté après un été? Jamais. Là, il marche sur l'eau. On va en parler après, pendant le match. Il a marché sur l'eau et tu sens que le mec, il a fait le boulot. Tourelle lui avait demandé avant les vacances de revenir en ayant perdu quelques kilos. Là, ça se voit, Ça se voit. Et j'ai jamais vu aussi impliqué, aussi sérieux, aussi en forme si tôt dans la saison.
En même temps, il a pas joué la Coupe du Monde.
Il faut juste faire attention à ses opérations.
C'est encore pire.
Il faut juste faire attention à ses opérations séduction de début de saison. Voilà, ça, on verra avec sur long terme, comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est sympa de voir un entraîneur proche de ses joueurs comme Thomas Tuchel ce soir.
Alors qu'on n'aurait pas cru au début, quand il arrivait, on aurait cru que ça se passerait pas comme ça, on aurait cru que ça serait le professeur froid.
Non, parce qu'on en a fait une image d'un entraîneur très sévère, très dur, et visiblement il est assez exigeant, c'est vrai, mais on avait peut-être pas cette image d'entraîneur très très proche de ses joueurs.
Et puis avec le micro, là, il a l'air assez à l'aise, là. Quand il faut pousser la chansonnette, il a l'air...
Comme en boîte de nuit à Paris, là, je sais pas si c'était avec toi qu'on nous a...
Mais
il y a un truc qu'il faut qu'on a peut-être pas assez souligné, c'est qu'il est très dur, il est très exigeant, on l'a dit plusieurs fois, c'est le genre aller faire le placard des joueurs pour tirer le ketchup. C'est une histoire véridique, ça, mais c'est aussi quelqu'un qui se sent proche de ses joueurs, et on l'a vu dans l'incident, après l'attentat en Ligue des Champions, entre Dortmund et Monaco, lui il voulait pas jouer le match parce que ses joueurs étaient traumatisés et qu'il voulait pas leur infliger ça. C'était ses mots, il disait,
ça a créé d'ailleurs une dissension entre...
C'est pour ça qu'il est parti
Tourelle
de Dortmund,
c'est pour sa direction.
Mais c'est quelqu'un qui est proche de ses joueurs d'une manière générale, et je pense qu'on l'a pas assez souligné.
Oui, contrairement à Unai Emery qui parfois peut-être pouvait paraître un peu distant, mais on verra, puisque sur le terrain, Unai Emery avait déjà aussi remporté les trophées des champions. Donc c'est le premier titre pour Thomas Tuchel à la tête du Paris Saint-Germain. Une petite balade à Shenzhen en Chine pour les Parisiens, on va voir ce qui s'est passé, quasiment à sens unique. 8e trophée des champions en tout cas pour les Parisiens, le 6e d'affilée. Ils égalent Lyon avec un 6e titre de suite. Di Maria sur coup franc pour l'ouverture du score, Nkunku ensuite, et puis en deuxième période c'est Timothy Weah servi par Nsoki qui marque le 3e but à la 67e minute, avant un doublé d'André Di Maria. Dans cette composition d'équipe quand même, pour ceux qui n'ont pas suivi cette rencontre, Il y avait pas mal d'absents, notamment les champions du monde, Areola, Kimpembe ou encore Kylian Mbappé. Thomas Meunier n'est toujours pas rentré de vacances. Cavani était blessé, Daniel Alves est en reprise. Et du coup, eh bien, Thomas Tuchel avait fait tourner son effectif avec une équipe plutôt jeune où on a vu un Dagba, par exemple, titulaire, 19 ans, Ntsuki, 19 ans également, titulaire, et Timothy Weah qui a marqué, qui était également titularisé à la pointe de l'attaque aux côtés d'Nkunku, 20 ans seulement. On va écouter Marquinhos, le défenseur qui est entré en jeu, le défenseur brésilien, qui était évidemment très satisfait de cette première victoire officielle pour le Paris Saint-Germain cette saison.
C'était une très bonne performance. Depuis le début du match, on a vu un Paris qui essayait de gérer le match, qui essayait d'aller vers l'avant, qui essayait de trouver des espaces, on a réussi à trouver. Alors, les joueurs qui ont été sur le terrain, ils ont été vraiment performants, ils ont été au top, alors ça fait la différence. Il y en a des joueurs qui ont même un peu d'entraînement dans les jambes, mais ils ont déjà un niveau incroyable, alors ça fait du bien, ça fait du bien pour l'équipe, on était efficace, les occasions qu'on a eues, on a marqué, et ça fait totalement la différence.
Ouais, sur le PSG, avant de revenir sur la défaillance de l'AS Monaco, ça sera un peu plus tard dans l'after, Jonathan. Quelle note tu donnes, toi, à cette première sortie officielle pour le PSG Tuchel?
Ah bah 8 sur 10, c'était très convaincant. Il y avait beaucoup d'absents, c'était une équipe bis. Mais déjà, ce qui m'a semblé intéressant, c'est qu'on sent en fait là où Tuchel veut aller. Alors qu'il joue à 3 ou à 4 derrière, au final, t'as le même esprit. J'ai trouvé les deux milieux de terrain, vraiment en très grande forme, Rabiot et Verratti. Les deux ont sorti une prestation XX. Ils sont déjà super affûtés. Je pense que les deux ont beaucoup à prouver après quelques errements, on va dire. Rabiot avec son histoire avec les Bleus, Verratti qui s'est pas qualifié en Coupe du Monde, qui sort d'une saison quand même peu convaincante. Les deux, je pense que là, ils sont motivés, ils sont super en forme et super affûtés. Donc ça, c'est super positif. Mais aussi, j'ai bien aimé certains jeunes qui ont joué. Bon, je sais que Jordan, tu voulais en parler, mais Nkunku, tu nous en diras plus tout à l'heure, mais il a été très bon, comme à chaque fois qu'il joue avec le maillot du PSG. De toute manière, c'est vraiment un super petit joueur. Et le petit Riemann derrière, écoute, quand on dit que...
Alors Paris... tu dis le petit Riemann, attention. Oui. On pense qu'il est jeune, non. Il a 27 ans, Riemann.
C'est vrai.
On l'a pas vu souvent avec le maillot du PSG sur les épaules.
C'est assez surprenant de le voir.
Je l'ai trouvé surprenant. Ça a l'air d'être un bon défenseur. Alors, est-ce que ça peut suffire pour faire les coupes? Peut-être. Est-ce que ça dispense le PSG de recruter un quatrième central?
Non, ça sera une prochaine discussion dans l'after.
Mais je pense que si là, ça ressemble à une chance qu'on lui accordait, je pense qu'il l'a bien saisi.
Est-ce qu'on a vu une patte Tuchel? Alors, attention, parce que quand on avait vu Unai Emery et le premier match d'Unai Emery avec le PSG, c'était le trophée des champions. C'était 4-1 contre Lyon en 2016.
François Jordan, ça
veut rien dire. Et tout le monde s'était dit, ah bah ça y est, on a vu la patte.
Non mais les gars,
Unai Emery, et finalement il est revenu un petit peu en arrière en se disant, ah bah finalement avec les joueurs que j'ai, bah je vais revenir à un système que les joueurs connaissent.
Lui ne reviendra pas en arrière parce que je pense qu'il a plus de caractère. Ce qui a manqué à Emery, c'est de savoir résister quand les membres du vestiaire, quand les quatre du vestiaire sont venus lui dire, écoute, on voudrait revenir en 4-3-3 et avoir la balle, etc. Donc je pense que Tuchel, ça passera pas. Mais de toute manière, vous serez d'accord avec moi, la saison du PSG, elle commence en février. C'est là qu'on saura.
Ouais, comment c'est fait effectivement en février, mais il y a des joueurs qui sont aussi en avance parce que André Di Maria ce soir a fait un énorme match. Généralement justement on l'attend plus au mois de janvier février, là dès le mois d'août
ça
il est prêt.
Ça sent le mec qui sait pas ce qu'il veut faire cette saison.
Alors oui, c'est à double tranchant, soit il veut s'imposer auprès de son nouveau coach, soit il a des velléités de départ. Mais André Di Maria a fait un très bon match, tu parlais d'Nkunku, c'est un joueur finalement qu'on n'a pas beaucoup vu avec Unai Emery la saison dernière, alors que il faisait plutôt des bons matchs, un joueur polyvalent, il peut ratisser des ballons. Il peut marquer, je crois que sur les 9 dernières titularisations d'Nkunku, il a marqué 6 buts. C'est un joueur hyper complet. Je pense que c'est un joueur qu'on devrait voir plus souvent avec Tuchel.
Ce qui est grave, c'est qu'en fait, ça fait 2-3 intersaisons qu'on le voit pendant les amicaux d'été, où il est très bon. À chaque fois, il disparaît après. J'aimerais bien que cette saison, qu'il ait un peu plus sa chance, parce que c'est un bon joueur.
Alors, on va s'intéresser justement au cas de Nkunku, qui, tu le disais, n'a pas joué beaucoup la saison dernière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence hein, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Lui, il vient du centre de formation du PSG. La saison dernière, il a joué 20 matchs de Ligue 1, mais seulement 6 titularisations pour 4 buts. Je crois que la saison d'avant, c'était également à peu près la même chose, 20 matchs et 4 buts, mais très peu de titularisations. Déjà, sur ce joueur, il y a pas mal de gens qui ont dû regarder le trophée des champions. Ils se disent, ah bah tiens, Nkunku, il joue devant. Non. Alors que on l'a vu, avec Unai Emery, jouer parfois au milieu de terrain, milieu relayeur. On a l'impression qu'il peut jouer partout.
Ben, en fait, il a une telle densité physique et une telle capacité à répéter les efforts tout en restant propre techniquement que oui, effectivement, il peut jouer dans un couloir, il peut jouer au milieu. Il est super polyvalent.
Mais là, souvent, c'est du bonheur. C'était un joueur offensif, hein, quand même.
Ouais.
Ça reste un joueur offensif.
Un milieu de terrain offensif, pour moi, c'est ça son poste.
Alors, Nkunku, est-ce qu'il a une chance parce que il aurait refusé des offres, notamment venant des Girondins de Bordeaux. Est-ce qu'il doit rester au PSG? Est-ce qu'il a des chances de s'imposer?
Je pense qu'il a une chance. Ce qui m'a fait plaisir, moi, en tout cas, c'était de voir beaucoup de jeunes sur le terrain. Aujourd'hui, alors sans faire de jeunisme primaire bien évidemment, et on sait qu'il y a pas mal d'absents côté Paris Saint-Germain, mais les jeunes ont plutôt fait le boulot ce soir, et Nkunku, c'est un des jeunes les plus complets qu'on a vu aujourd'hui sur le terrain, et j'ai l'impression que Tourelle veut faire confiance aux jeunes. Nkunku a fait un bon match, mais il y en a d'autres qui on a parlé de Riemann, alors c'est pas la même configuration parce qu'il est plus âgé, mais je pense que Nkunku véritablement peut s'installer dans une rotation. Franchement, oui. Il pourrait jouer dans n'importe quel club de Ligue 1.
Alors, je suis d'accord. Mais ce qui m'inquiète, c'est que là, je pense que maintenant, il faut qu'il ait du temps de jeu, qu'il soit titulaire, qu'il enchaîne les matchs. Et quand tu regardes, alors, si au milieu, tu le mets au milieu, il va être en concurrence avec Rabiot, Verratti, Draxler, Lo Celso. Déjà. C'est quand même rude, hein, pour deux places. Parce que là, on parle d'une configuration où t'as deux places à prendre au milieu de terrain. En 3-4-3. Devant, il va être en concurrence avec Mbappé, Cavani, Draxler qui peut jouer sur un couloir, Neymar,
Di Maria
s'il reste, ça fait quand même c'est pas remettre en cause ses qualités, mais ça me semble un petit peu bouché quand même pour lui.
Et donc pour toi, si beaucoup nous écoute, toi tu lui dis par cette saison prêté un an peut-être.
Le PSG ne doit pas le vendre. On sent que c'est un joueur qui peut devenir important. Et quand je dis devenir important, qui a en lui d'être au niveau européen. Dans ce cas-là, tu le prêtes. Il fait une saison complète.
D'ailleurs, Nkunku, le Paris Saint-Germain a refusé une offre pour Nkunku venant de Bordeaux. Moi, je pense qu'ils veulent vraiment le garder et ça serait une bonne idée pour le Paris Saint-Germain de faire émerger quelques jeunes parce que finalement, ces dernières années, à part Kimpembe,
il y a beaucoup de jeunes qui ont émergé du PSG.
Alors Kimpembe est le seul avec Rabiot qui se sont imposés véritablement. Ouais, mais ça coûte, il y a combien de temps?
Ouais, mais c'est quand même, on dit souvent que le PSG, c'est un club qui fait pas émerger de jeunes, mais dans la politique et dans le modèle qu'ils ont choisi, c'est très dur d'émerger quand t'es un jeune joueur. À moins d'être extraordinaire, comme Kimpembe, on sait que c'est un joueur qui a le potentiel de devenir extraordinaire. Là, c'est pas une c'est un club qui achète beaucoup de joueurs, beaucoup de stars, qui a pour ambition d'avoir une star à chaque poste pour gagner la Ligue des Champions. C'est plus dur pour un jeune de s'imposer à Paris que dans d'autres clubs, parce que quand tu regardes les jeunes qu'ils ont, par exemple, Adli, pour moi, il peut jouer dans un club de Ligue 1, moyen.
La différence quand même, Jonathan, c'est qu'aujourd'hui les jeunes signent quand même des contrats au Paris Saint-Germain.
Ça, c'est très bien.
Adli, c'est ce qu'il a fait le mois dernier.
Ils ont eu chaud au PSG.
Alors que par exemple, un Kingsley Coman à l'époque partait et disait de toute façon mon avenir est bouché au Paris Saint-Germain, donc je préfère partir.
Mais c'est la volonté aussi des décideurs qataris de faire émerger une star made in Île-de-France, made in Paris.
Elle existe.
C'est pour ça qu'aussi Mbappé, elle est revenue.
Sauf qu'il a pas été formé au Paris Saint-Germain.
Ils s'en foutent de ça.
Les Qataris peuvent faire émerger une star formée au Paris Saint-Germain, si le futur Messi est parisien, je peux dire que le Paris Saint-Germain mettra les moyens en œuvre pour le faire émerger.
Le problème, c'est que ça, quand ils disent ça, c'est séduisant, mais je pense que c'est juste un élément de communication, un élément de langage, parce que c'est incompatible avec les objectifs sportifs à court terme du club. Leur objectif à très court terme, c'est de gagner la Ligue des Champions. Pour ça, maintenant, face à cette course à l'armement à laquelle on assiste chaque été depuis plusieurs mercato maintenant, c'est beaucoup plus dur de pas avoir une star à chaque poste. Et du coup, ça bouche un peu l'avenir pour ces jeunes-là. Comment, par exemple, on a vu qu'il avait en lui d'être un très bon joueur. Mais il a raison, hein. Il serait resté au PSG, il aurait pas joué. Il a raison de partir.
Vous avez évoqué effectivement le cas de Nkunku. On est passé un petit peu rapidement sur le cas d'André Di Maria. Tu parlais d'un possible départ, Jonathan, mais on n'en sait rien pour l'instant, même si, évidemment, le Paris Saint-Germain peut-être aurait besoin de vendre Di Maria par rapport au fair play financier. Ça a été clairement l'homme du match, hein. On est d'accord, face à l'AS Monaco, avec un doublé. Et c'est vrai qu'on a vu un André Di Maria ultra motivé. Mais pour lui aussi, la place de titulaire est bouchée avec les trois de devant, sont Neymar, Mbappé et Cavani. Est-ce qu'il peut se contenter d'une place remplaçant?
Moi, je lui vois une place dans le 11. Je pense qu'il a tout à fait sa place pour jouer piston gauche. À la place de Lévin Kurzawa.
Dans un 3-4-3.
Il a joué à ce poste-là en Argentine. Avec l'Argentine.
C'est très offensif, hein.
C'est très offensif, mais il a le, alors, il vieillit évidemment, mais il a quand même un coffre qui est assez impressionnant. Il a une capacité à répéter les courses qui est elle aussi impressionnante quand il a pas cette nonchalante qui parfois nous agace lorsqu'on la constate sur le terrain. Mais, il a ça, et en plus, il est très très bon dans sa lecture du jeu dans les phases de transition. Donc je pense que c'est un joueur qui est suffisamment intelligent pour occuper ce poste-là et pas partir quand il faut pas partir mais qu'il faut rester couvrir ses défenseurs. Et je pense que ça peut être une très bonne solution.
Moi j'en suis pas sûr parce que je pense justement que Di Maria à gauche dans un 3-4-3 c'est opération porte ouverte sur le côté. Voilà. C'est-à-dire offensivement effectivement ça serait très intéressant. Après défensivement faudrait que les trois de derrière couvrent parce que il y aura des espaces dans le dos.
En Ligue 1, en coupe. Ça, je vois pas où est le problème. Et je pense que pas qu'il y ait, enfin, que Di Maria apporte moins de garanties défensives que Levin Kurzawa, par exemple.
Bah, là, c'est là où.
C'est là où un tout petit peu. Mais,
Légèrement,
c'est, quand je dis un tout petit peu, c'est vraiment un tout petit peu. Parce que je pense que Di Maria est beaucoup plus intelligent dans ses positionnements, dans ses replacements.
Mais il défendra pas, Di Maria.
Bah,
il
on l'a vu défendre, hein, avec le Real, avec l'Argentine, on l'a vu défendre.
Je pense pas qu'il est le, il commence à se faire vieux, tu le dis. Je pense qu'il a pas le coffre pour vraiment faire ce.
Je demande à voir. Rappelez-vous, quand l'Argentine va en finale de la Coupe du Monde, il joue quand même très bas.
Alors, il joue au milieu de terrain.
Ouais, mais très bas.
Comme quand il gagne la Ligue des Champions avec le Real Madrid où il joue au milieu de terrain.
Mais milieu de terrain, dans un le 11, dans une équipe entraînée par Alejandro Sabella qui, c'est pas du béton, c'est du béton armé, lui, ces équipes.
Alors, quelques réactions à 21h20 dans l'after sur le hashtag RMC Live, sur Nkunku, notamment, Petit Prince du Parc, qui nous dit, Nkunku va jouer, Verratti est souvent blessé, Draxler aussi, Mota et Pastore sont partis, il va avoir sa chance, et déjà, dès la semaine prochaine, dimanche, contre Caen, il sera titulaire, d'après Petit Prince du Parc, qui a sans doute des infos. Et puis, Emric, qui nous dit aussi sur le hashtag RMC Live, restez calme, Nkunku, c'est encore trop irrégulier, pas assez investi sur la saison, il est en dessous des remplaçants, il s'est frappé les coups de pied arrêtés à une bonne frappe, mais il a fait trois matchs là et il faut attendre une vraie compétition, voilà, plutôt que les matchs de préparation. Le côté obscur du foot nous dit sur le hashtag RMC Live, le PSG doit puiser dans son centre de formation pour éviter le fair play financier, un mélange d'achats et de jeunes joueurs et de jeunes formés au club comme Rabiot et Kimpembe serait sans doute la bonne solution pour le côté obscur du foot. 21h21 dans l'after au 32-16. Sofiane, supporter du PSG, nous attend. Salut Sofiane.
Salut les amis, vous allez bien?
Ça va très bien et toi?
Salut Sofiane.
Ouais, ça va.
T'es en vacances?
Pas encore.
Eh ben, écoute, en attendant, tu as vu sans doute la victoire de ton club, le Paris Saint-Germain, face à Monaco. Qu'est-ce que tu en retires de cette victoire, de ce succès lors du Trophée des Champions?
Ouais, j'ai regardé le match tout à l'heure et puis après, c'est difficile d'en retirer quelque chose parce que c'est juste la moitié de l'équipe du PSG, mais ils ont dominé de la tête et des épaules, et vous parliez justement des jeunes joueurs qui ont un peu apporté, et justement je vous entendais parler des jeunes. Le problème au PSG, c'est qu'ils ont jamais leur chance, parce que tu te dis qu'un mec comme Nsoki qui a joué à gauche, il pourrait apporter un petit peu. C'est comme le petit Zagadou qui est parti à Dortmund, mais ils savent très bien que rester au PSG, malheureusement, fait que derrière ils joueront pas trop. Nkunku, j'entendais le tweet du mec dont vous parliez qui disait qu'il est trop irrégulier. Comment tu peux être régulier en ayant joué six bouts de match l'année
c'est
dernière?
Eric,
t'as pas le temps de prouver. Voilà. Et le dernier truc, on parle souvent de Rabiot et Kimpembe qui sont des exemples. Ouais, je suis d'accord, mais Rabiot, on en parle depuis qu'il a 17 ans, il a 23 ans. Donc ça fait 6 ans, il a mis 6 ans, 5 ans, allez, puisqu'il était titulaire l'année dernière. 5 ans à s'imposer au PSG.
Ouais, t'as raison, ça c'est vrai, on le signe pas assez.
En étant prêté en plus à Toulouse, hein, il a été tout prêté.
Voilà.
Hein.
Il a été prêté à Toulouse une demi-saison, etc. Ce que j'essaie de dire derrière ça, c'est que les jeunes, ils ont pas envie de signer au PSG parce qu'ils savent que derrière, ils joueront jamais. C'est pour ça aussi qu'ils signent pas au PSG, ils auront jamais leur chance. Pourquoi qu'un arrière gauche remplaçant, il peut pas être issu du centre de formation, malheureusement. Tu vois, le petit Nsoki, il hésite à signer, parce qu'il sait très bien qu'ils vont essayer de recruter un deuxième arrière gauche, il sait très bien qu'ils vont recruter un milieu défensif en plus, patati patata, et que t'as malheureusement très peu ta chance.
Mais pourquoi tu dis malheureusement, Sofiane?
Parce que, cite-moi, à part Rabiot, Nkunku et Kimpembe, des joueurs qui ont eu leur chance et en tout temps sa chance.
Je suis d'accord, Sofiane, je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire par là, c'est que ton objectif, c'est gagner la Ligue des Champions. Ok? Et tu veux la gagner à très court terme. T'as investi, plus 300 millions d'euros sur ta ligne d'attaque l'été dernier. Le but, c'est de gagner la Ligue des Champions. C'est pas dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Non, c'est chaque année être capable de gagner la Ligue des Champions. Et ça rentre un petit peu en opposition, en contradiction avec la possibilité de se laisser le temps de faire un travail sur le moyen terme pour intégrer des jeunes, pour que tes jeunes grandissent, pour que tes jeunes puissent intégrer le 11. Parce que quand tu joues avec des jeunes, il faut leur accorder une marge d'erreur. tu vois.
Attends, si je peux me permettre de déjà, t'as raison. C'est aussi ce paradoxe et cette hypocrisie auquel on fait face avec les dirigeants du PSG. Après, je te donne juste 2-3 exemples qui sont pas forcément universels, mais je t'en donne très rapidement. Le Barça gagne plus la Ligue des Champions depuis qu'ils font plus émerger des joueurs de leur club. Premièrement, deuxièmement, le Real Madrid a gagné la Ligue des Champions en faisant émerger quelques mecs comme Lucas Vázquez et Asensio.
Ouais.
Ce qui alors que c'est pas antinomique.
Et non, Asensio, bien sûr que non.
Il a marqué en demi-finale et en finale l'année dernière.
Pas bien sûr année, que non. Mais t'as totalement raison, Sofiane. Sauf que tu vois, enfin, ça doit se limiter à quelques jeunes qui sont vraiment extraordinaires. Kimpembe, il est extraordinaire. Kimpembe, c'est normal qu'il soit dans le 11.
Tu peux plus les compter comme de nouveaux émergents. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Rabiot, ça fait 6 ans qu'il est là. Donc pour moi, si tu dois faire émerger quelqu'un, voilà. Après, ils sont pas obligés de le faire. Mais juste, il y a une certaine forme d'hypocrisie en se disant qu'on va le faire. Mais en fait, on leur donne jamais leur chance. Ils ont le droit de pas le faire.
Mais malgré tout, Kimpembe, il n'a pas non plus émergé au PSG tant que ça. L'année dernière, c'est le troisième défenseur derrière Marquinhos et Thiago Silva. Donc voilà, faut qu'il continue de pousser, mais a priori.
Je suis 100% d'accord avec toi sur ça. J'ai pas dit forcément que c'était le cas, mais tu vois, un Barça pareil. Le Barça,
c'est à part, Sofiane. Tu sais, c'est difficile de. Tu
regardes l'équipe il y a 8 ans qui a gagné 3 Ligues des Champions. 2 Ligues des Champions sur 4 ans, il y avait 6 joueurs ou 8 joueurs formés au club. Ils les ont laissés tous partir.
Mais Sofiane, avant d'arriver à cette génération-là, il y a eu un travail en amont et une certaine période où le Barça a mangé son pain noir, a accepté de manger du pain noir pour arriver à ça, à ce résultat-là.
Et c'est pour ça que je te dis que tu avais raison tout à l'heure et que c'est en opposition avec le fait de vouloir faire signer des contrats de 3 ans à tous.
Sofiane, on t'a perdu.
13 millions, tu vois.
Merci Sofiane.
Ciao Sofiane.
Merci, c'était très instructif, très intéressant ton intervention dans l'after. Merci beaucoup. Et appelez-nous au 3216 évidemment pour réagir à l'émission. Un dernier mot quand même, peut-être sur Verratti très rapidement, parce que comme tu es à fond sur l'indice de masse graisseuse, on le rappelle, tu l'as trouvé hyper affûté.
J'ai jamais vu revenir de vacances en étant aussi en forme. Et puis il a marché sur l'eau aujourd'hui. Il a sorti une. Bon, alors c'est vrai que l'opposition n'était pas très élevée, mais j'ai trouvé qu'on avait le Verratti qu'on veut voir, c'est-à-dire extrêmement juste techniquement, qui dribble, qui est capable de dribbler la moitié d'une équipe, qui continue de pas frapper au but, mais bon, ça, je pense que c'est rédhibitoire un petit peu
chez
lui.
C'est peine perdue.
Ouais, c'est peine perdue, ça sert à rien de s'attendre à ça, mais non, mais vraiment, je l'ai trouvé très en forme, un très beau volume de jeu, je l'ai trouvé à l'aise, et c'est déjà tôt dans la saison, et ça me fait plaisir de le voir comme ça, je pense qu'il a gros à jouer.
Eh ben, on revient dans l'after, évidemment, dans quelques secondes seulement, restez avec nous, évidemment, on continue de débriefer ce Paris Saint-Germain-Monaco. Est-ce que le PSG a vraiment intérêt à recruter? Ben, c'est une question qu'on vous pose, n'hésitez pas à réagir. On en parle dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, l'after jusqu'à 23h, François Pinet.
Retour dans l'after à 21h28, on est ensemble jusqu'à 23h, toujours avec Jonathan Macardy, qui n'a pas resté bloqué dans un train, contrairement à Samuel Ipoy, mais on a la chance du coup d'avoir Jordan Olivier avec nous, toujours au top.
Je prends le vélo moi, donc pas ce genre de
problème. Pas de nouvelles de Samuel, vu que t'as bloqué le train, non?
Non, mais
il a marabouté là.
Non mais on pense à tous ceux qui sont bloqués dans le train avec Samuel, parce que c'est pas évident. Un samedi soir à 21h28, ça doit pas être marrant.
On les embrasse, ils doivent écouter l'after.
Bah ils doivent nous écouter, effectivement. Samuel, si tu nous écoutes, tu peux nous appeler au 32-16, hein. Voilà, mais on a trouvé ton remplaçant, Jordan Olivier. Dans 20 minutes, on se posera la question, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'AS Monaco après sa défaite 4-0 lors du Trophée des Champions, alors que le championnat commence la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous écrire sur le hashtag RMC Live sur Twitter ou sur l'appli Direct Studio, sur l'appli RMC Direct Studio. Vous nous écrivez, on lit vos messages comme je le fais avec Donatello sur le hashtag RMC Live qui nous dit Verratti va beaucoup progresser avec Tourelle, ouais, puisqu'on en parlait il y a quelques secondes. Il y a Petit Prince du Parc qui nous dit arrêtez avec les jeunes au PSG, ne joue pas. Il y a Areola qui joue, Kimpembe joue, Rabiot joue, Nkunku joue.
Il a raison.
Et Wea commence à jouer. Peut-être qu'avec Touré, il y aura du changement. Voilà, il précise que le Barça ne sort plus de bons jeunes, que la Juve n'en forme pas, que City non plus, et que l'Atlético non plus, et que Monaco a des jeunes, on en parlera. Et regardez le résultat. Voilà ce que nous dit Petit Prince du Parc. Après ce large succès du PSG, les champions de France ont-ils intérêt à recruter? Voilà la question qu'on vous pose. Sachant que, effectivement, sur le mercato, pour l'instant, c'est 0 euro de dépensé pour le Paris Saint-Germain. Du côté, évidemment, des arrivées, Buffon est le seul à avoir rejoint le Paris Saint-Germain en provenance de la Juve, mais il était libre. Sinon, il y a eu des départs, et notamment les plus notables, ceux de Javier Pastore ou encore de Berdych, en attendant peut-être
Berchiche,
pardon.
Berdych, c'est un autre sport.
Ouais, c'est autre chose.
C'est la petite balle jaune.
Celui de Berchiche, évidemment, en attendant peut-être celui d'autres, les départs d'autres joueurs du Paris Saint-Germain. Alors, Pourquoi on se pose cette question? Parce qu'on a vu effectivement lors de la préparation des joueurs se montrer, et puis peut-être un Tourelle plutôt intelligent dans la façon de faire, qui pourrait permettre au Paris Saint-Germain de faire la saison sans recrue.
On va ensemble identifier les postes où il faudrait, on se demandait avant les matchs amicaux s'il fallait recruter. Une doublure pour Kurzawa.
Ah, ouais. Ça c'est obligatoire.
Voir un numéro 1.
Un milieu de terrain défensif.
Défensif.
Pour remplacer numériquement Thiago Motta.
Voilà, quelqu'un qui peut jouer en sentinelle aussi.
Et un défenseur central.
Las Diarra ce soir. Ouais, bon, moi je l'ai trouvé plutôt bon.
Attends, on va y venir. Et un défenseur central.
Défenseur
si
central,
je crois, oui, indispensable. Et moi j'ajoute à ça, parce que personne n'en parle, une doublure à Edinson Cavani qui soit capable de jouer vraiment en numéro 9. Ça c'est les postes où on pouvait se dire qu'il fallait recruter. Alors maintenant quand on regarde, au milieu, je suis d'accord, la Sana Diarra est très convaincant pendant la préparation et surtout il offre la possibilité de pouvoir être polyvalent et de jouer aussi défenseur central avec relativement un certain succès.
En Ligue 1.
On est d'accord. Au poste de d'arrière gauche, moi je persiste à dire, alors on sait qu'on n'est pas d'accord, mais je pense que Di Maria peut au moins dépanner sur ce rôle dans un 3-4-3. Je vous parle pas d'une défense à plat à 4 où là bon c'est inenvisageable, mais dans un 3-4-3 je pense qu'il peut prendre ce rôle là.
Dans un rôle à 4, tu peux citer Nsoki là qui a 19 aussi. Ans qui a fait deux passes décisives, bon défensivement c'est aussi. Pas toujours ça, mais offensivement
totalement défenseur central. Donc on a dit la Sana Diarra, la doublure de Cavani, on peut se dire que numériquement bah il y a le fils de donc Timothy Weah, mais en fait c'est vrai qu'il y a la capacité de bricoler. T'as plein de joueurs dans ce groupe là qui sont polyvalents, qui peuvent apporter quelque chose. T'as des jeunes de qualité, mais j'insiste, en Ligue des Champions pour l'instant le 11 il est excellent, il ne nécessite pas, il y a pas besoin de faire de retouches, mais par contre sur le banc ça me semble être un peu léger, surtout un petit peu déséquilibré. Il y a quand même beaucoup de joueurs à certains postes. Je pense par exemple au milieu de terrain avec Lo Celso, Draxler. Je me demande quand est-ce qu'ils vont jouer. Mais je trouve qu'il y a quand même des postes où il faut de la doublure. Latéral gauche, il faut une vraie doublure de haut niveau. Défenseur central, si tu joues à 3, t'es obligé d'en avoir un autre. Ça, c'est impératif. Parce que Diarra, t'as raison Jordan, il dépannera qu'en Ligue 1. Numéro 9, imaginons, il y a un pépin avec Edinson Cavani. Tu fais quoi? Tu mets Mbappé devant? Ouais, pourquoi pas. Mais ce serait quand même pas mal d'avoir un vrai numéro 9 en fonction de l'adversaire que tu tires en Ligue des Champions. Donc je pense qu'il faut qu'il recrute, mais que ce soit que des joueurs de complément.
Moi, je suis d'accord avec Jonathan sur les postes identifiés. A priori, la nuance que j'apporte, c'est au niveau de l'arrière gauche. Il faut un titulaire parce que une doublure ça suffit pas. Kurzawa doit être la doublure. On l'a vu l'année dernière en Ligue des Champions, c'est trop léger. Kurzawa c'est trop léger. Donc il faut un l'équivalent de Thomas Meunier ou Dani Alves.
Moi,
sur le côté gauche.
Je laisse le bénéfice du doute à Kurzawa.
Pendant combien de temps on va lui laisser le bénéfice du doute à Kurzawa?
C'est le problème. Du doute avec Thomas Tuchel. Thomas, on sait que le PSG voulait le vendre. Tourelle a dit qu'il voulait le garder, qu'il voyait en lui un certain potentiel et qu'il allait le faire progresser. C'est pour ça que je lui laisse le bénéfice.
Donc d'une Fiat Panda, ça peut passer à une Ferrari.
Mais là, vous êtes dur. Quand Kurzawa arrive au Paris Saint-Germain, on était tous unanimes pour dire que c'était un super arrière-latéral. On le trouvait bon physiquement, on le trouvait pas mauvais défensivement.
Il n'y avait pas vraiment de débat au moment de son arrivée au Paris Saint-Germain.
Il y avait débat. On savait que Kurzawa était un très bon contre-attaquant, mais défensivement, il y avait des doutes à son sujet. Très bon dans les centres, à Monaco en tout cas, c'est un peu perdu au PSG.
Il était quand même plus solide à Monaco.
Défensivement, Kurzawa, ça a jamais été la foule.
Mais alors, Jordan, quand tu je suis d'accord avec toi là-dessus, mais à ton sens, Kurzawa, il est mauvais défensivement, pourquoi?
Alors, il est mauvais défensivement, alors peut-être aussi parce qu'il est pas aidé. Et c'est la raison pour laquelle faut recruter un arrière latéral gauche solide. C'est, on le sait, les trois de devant ne feront pas le travail défensif. Ça, c'est un fait. Donc, il faut mettre des arrières latéraux solides. Daniel Alves, il a tendance à monter, mais ça reste un très bon défenseur.
Thomas Meunier.
Meunier, excellent défenseur. Mais à gauche.
Défensivement, c'est pas la sécurité sociale non plus, Thomas Meunier.
Ça reste quand même solide.
C'est pas la sécurité sociale non plus.
Vous voulez que je vous départage?
Allez.
Non, effectivement, je trouve que Thomas Meunier et Kurzawa ont un peu le même profil, voilà. C'est-à-dire assez fort offensivement et un peu plus en difficulté défensivement. Moi, ce qui marque sur les latéraux du PSG, Meunier et Kurzawa, c'est surtout qu'ils n'ont pas encore toutes les notions du poste derrière latéraux. Et le problème, c'est que parfois, il y a des sautes de concentration parce que quand on est au PSG, on a le ballon, on n'a pas besoin forcément de défendre pendant 90 minutes.
Pour des
on doit défendre pendant une sur une action, on doit défendre, on doit être là.
T'as
et on doit
être les défenseurs.
Alors,
ne et je suis
pas sûr que Paris Saint-Germain, Kurzawa et Meunier soient capables de le faire.
T'as tout résumé. Et alors là où je veux en venir, c'est qu'à mon sens, et Meunier et Kurzawa, on est deux. Donc Meunier, c'est déjà un peu le cas.
Mais je comprends même pas comment tu peux mettre Meunier et Kurzawa dans la même phrase.
C'est le même profil.
Tu peux pas les comparer sur le point de vue défensif.
Non, Meunier en avance.
Meunier, c'est quand même plus solide.
Mais je viens de te le dire, Meunier est largement en avance. Mais je pense que les deux, ils ont des lapsus défensifs qui sont très coûteux. Ouais, ils ont
des lacunes peut-être.
Des lacunes dans le match.
Pas encore Jonathan, mais
dans le match un peu, tu vois, t'as l'impression qu'il y a
plus de mots que nous.
Il y a les piles qui se touchent et puis pour moi c'est juste un problème de concentration parce que les deux ont en eux d'être des très bons latéraux, mais c'est juste de la concentration et je pense qu'avec un entraîneur qui va être derrière eux, qui va vraiment bien les driver, je pense que ça peut se rectifier facilement. Et deuxième élément, c'est que là aujourd'hui ils ont commencé le match en jouant à 4, on sait qu'ils veulent jouer à 3 derrière. Là, c'était conjoncturel, c'était avec Marquinhos et Thiago Silva qui revenaient, etc. On sait qu'ils veulent jouer à 3 derrière. Et à 3 derrière, pour Kurzawa et Meunier, c'est pas la même chose.
T'en es certain, toi, de la volonté de Tourelle de jouer à 3 derrière?
J'en suis quasiment sûr, oui.
Est-ce qu'il va réussir à convaincre, par exemple, un Thiago Silva qui a dit avant le match, justement, du Trophée des Champions, qu'il y avait quand même un temps d'adaptation pour jouer à 3 derrière? C'était pas forcément évident, notamment pour Thiago Silva qui a pas cette habitude-là.
Et il va apprendre.
Et là, ils ont joué à 4 derrière.
Il va apprendre. C'est un grand joueur, Thiago Silva, même s'il est beaucoup critiqué. Ça reste quand même un grand joueur qui, a une intelligence, un QI foot super à la moyenne. Je ne doute pas qu'il va vite comprendre le schéma. Et regarde, Thomas Meunier, c'est l'exemple parfait. Avec la Belgique, c'est vrai qu'il est solide. Il est très solide, il est beaucoup plus solide défensivement qu'au Paris Saint-Germain. Mais parce qu'il joue avec une 3 centraux derrière lui. Et je pense que ça peut faire beaucoup de bien à Kurzawa. Si si on m'avait dit, ok, Tourelle, il va jouer avec 4 défenseurs, effectivement, je te suis Jordan, Kurzawa, ok, merci, au revoir. On va prendre quelqu'un d'autre, un autre profil, quelqu'un de plus solide. Mais là, avec 3 centraux, c'est vraiment une interprétation du poste qui est totalement différente.
Donc pour toi, le problème de Kurzawa, c'est simplement le système tactique, si je comprends bien.
Je pense que Kurzawa, ça peut être un très bon latéral dans un 3-4-3 ou un 3-5-2. Voilà.
21h37 sur AMC et sur BFM Sport. Vous écoutez l'After, vous le regardez à la télé à 32-16. Il y a Ludovic qui nous attend. Salut Ludovic. Tu nous entends Ludovic?
Ouais, impeccable.
Ouais, supporter du Paris Saint-Germain. Alors, on se pose la question, est-ce que le Paris Saint-Germain a intérêt à recruter, après ce qu'on a vu aujourd'hui, notamment lors du Trophée des Champions? Ta réponse à toi, Ludovic?
Pas du tout. Il y a vraiment, on a les joueurs qu'il faut, on a vraiment ce qu'il faut. On a, en plus de ça, les jeunes, ils ont tous été super pour aussi bien les matchs amicaux que le Trophée des Champions. Donc non, pour moi, il n'y a pas besoin de recruter. Hein.
Même pas un central en plus.
Comment ?
Même pas un défenseur central en plus.
Bah non, t'as déjà Kimpembe.
Mais non, si tu joues à 3 derrière.
Eh ben, moi c'est Marquinhos, Silva, Meunier, je mettrai derrière.
Meunier en central ?
Ouais. Bah je mets à droite de
T'as
Silva,
fait l'apéro
quoi. Je mets à droite de Silva.
T'as fait l'apéro.
Quoi? Non mais il t'a entendu mettre Di Maria un peu arrière gauche, il s'est dit moi aussi je vais être innovant.
Attends, juste je reviens là-dessus. En fait, quand on est en 3-4-3, je pense qu'il faut arrêter de parler de latéral. C'est piston. C'est un piston côté gauche, piston côté droit. C'est vraiment une autre interprétation du poste. Mais Meunier, défenseur central axe droit.
Et alors tu ne prends pas de doublure à Cavani parce qu'il y a beaucoup aussi de réactions par rapport à ça. Est-ce qu'il faudrait pas une doublure à Cavani?
Bah on essaye Timothée Weah quoi, faut bien, de toute façon les joueurs faut bien, pour qu'ils prennent de l'expérience, qu'ils prennent du grade et qu'ils prennent de l'expérience, faut bien les faire jouer.
Et si à la veille d'un quart de finale de Ligue des Champions Cavani se pète, t'es serein?
On change le système.
On s'adapte. Tu changes le système, là. Tu changes le système.
Et puis il y a Kylian Mbappé, hein.
Tu mets Mbappé avant-centre, et à droite tu mets Draxler.
Je sais pas. Moi, je reste quand même sur le fait que même si les joueurs, c'est des joueurs dont on parle, à Neymar, Mbappé, c'est des joueurs qui peuvent jouer partout tellement ils ont une classe et un talent monstrueux. Je pense que c'est important dans une équipe d'avoir un autre, au moins un qui dans une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions, d'avoir un grand buteur et un bon buteur sur le banc en backup, quoi. Après.
Quel joueur tu prendrais en attaque du coup? Parce que quel attaquant sur le marché pourrait
te
venir au PSG?
Je vais te répondre, je vais te parler de profil. Ok. Profil, c'est un joueur qui va accepter d'être sur le banc, qui a de l'expérience, une expérience européenne, et qui tu sais que quand tu vas le mettre, que ce soit pour faire souffler Cavani en championnat ou que tu vas le mettre en Ligue des Champions, il va être dangereux, il va être bon. Moi, je prends toujours cet exemple-là, le Bayern quand il gagne la Ligue des Champions avec Enkes, ils ont 3 avant-centres de niveau qui se partagent un poste. Il y a Mandzukic, Derrière lui, il y a Mario Gomez. Et encore derrière, il y a Pizarro. Et Pizarro, tu vois, ce genre de profil-là, à ta trentenaire, qui est en fin de carrière, mais qui il reste quand même qui est quand même toujours en forme.
Pizarro, c'est celui qui est allé au Werder Bremen.
Ouais, ouais.
Bah, il a 39 ans.
Bah, non, mais je te parle de profil. Je te parle de profil. Dans ce profil-là. Je vais dire ça au pif, ok? Mais quelqu'un comme Mario Gomez. Ça coûte pas grand chose, il est plus sur la fin que sur le début. Tu sais que si tu le prends, bah, il va accepter d'être sur le banc parce que ça lui fait un dernier beau challenge. Et tu sais surtout qu'à chaque fois que tu vas le mettre, eh ben, t'auras quand même de la qualité en championnat.
Mais finalement, ces profils, ils sont assez rares. Qui aujourd'hui sur le marché
Olivier
est capable
Giroud.
De...
Ouais, aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un profil genre, il ira jamais là-bas, mais un profil comme Bafé Gomis pour être remplaçant de Denis Cavani.
Je te confirme qu'il ira jamais là-bas.
Non, mais c'est ce genre de profil-là, tu vois, 30 nerfs, tu sais que si tu le mets en Ligue 1, c'est la douzaine de buts assurés. Je te dis pas que pour la Ligue des Champions,
alors, si c'est juste pour la Ligue 1, pourquoi ne pas faire confiance, comme dit Sofiane, à Timothy Weah?
C'est Ludovic.
Ludovic, pardon.
Parce que je pense que c'est Sofiane, un jeune, c'est et que c'est un jeune joueur qui a combien de matchs en pro?
Il doit avoir je veux pas dire de bêtises, mais 4-5 matchs peut-être, okay. Non,
et on parle d'un joueur qui joue au poste de numéro 9. Tu m'aurais dit ça pour un milieu de terrain ou pour un arrière latéral, pour un peu là, voilà, ça aurait été différent. Mais quand tu joues numéro 9, t'es tout de suite plus exposé. Si tu loupes 2-3 occasions, ça devient très difficile très vite. Je pense que pour ce genre de poste, dans un club à pression comme le Paris Saint-Germain, c'est compliqué quand t'es pour deux ans.
Timothy Weah, pour info, c'est 6 matchs en pro, 3 matchs en saison dernière, une titularisation.
Et tu sens en lui qu'il a en lui de devenir un bon joueur, hein. Il a un potentiel, ouais. Ça se voit sur chacune de ses prises de balles, etc. Mais, ne le grillez pas. Ludovic, ne le grillez pas.
T'as été convaincu par l'argumentaire de Jonathan, il faut recruter au Paris Saint-Germain ou pas, ou tu restes sur ton idée?
Alors. Bon, je suis convaincu juste pour l'attaquant, un vrai, ok, un trentenaire, un Mandzukic, ou ok, là je suis d'accord.
Non,
ouais, mais un genre de joueur comme ça,
ouais,
quoi.
Voilà, ouais.
D'accord. Mais en défense, non.
Une doublure expérimentée, en tout cas. Ah, mais donc tu persistes à vouloir mettre Meunier défenseur central axe droit, t'es sûr?
Par contre, si c'est pas Meunier, c'est Kimpembe, hein.
Bah, la défense, c'est Silva, Marquinhos, Kimpembe, si ça joue à 3.
Eh bah, Kimpembe.
Non, mais si t'en as 3, il en faut 3, Ludovic.
Si en faut 3, c'est Kimpembe, Silva, Marquinhos.
Mais ce que veut dire Jonathan, c'est qu'il n'y a pas de remplaçant derrière en cas de coup dur.
Bah, à la rigueur, si, t'as la Sanadira qui peut dépanner, éventuellement.
Ah, ça devient du bricolage, là, quand même.
Ça suffit,
c'est ce qu'a fait Tourelle lors de matchs de préparation.
Et avec une suspension. Mais... Attends, imagine. T'es en quart de finale de Ligue des Champions contre Manchester City. T'as, Marquinhos ou Kimpembe qui, par accumulation de cartons jaunes, est suspendu. Tu vas sereinement comme ça?
Non, peut-être pas, mais voilà. Très confiant. Bon.
Tu n'auras jamais le dernier mot, Ludovic. Tu sais comment ça se passe à l'after avec Jonathan. Merci beaucoup, Ludovic, d'être passé.
Merci beaucoup.
On va y penser à l'OC central axe droit.
Non, mais il y a quelques idées sur le hashtag RMC Live qui sont pas idiotes sur Twitter. Un joueur comme Dzyuba qu'on a vu à la Coupe du Monde avec la Russie, par exemple. Le géant russe qui a marqué plusieurs buts, ou encore un gars comme Chicharito Hernandez, le Mexicain,
parfait.
Nous dit Diawoye Traoré, pour
parfait.
Faire par exemple le nombre en numéro 9.
Ça, c'est une super idée, ça.
Alors, pour terminer sur le Paris Saint-Germain, parce que dans un instant, on va parler de l'AS Monaco, je sais pas si on peut nous proposer les photos, mais je ne sais pas si vous avez vu ça. L'entrée de Neymar, évidemment, c'était l'un des événements, hein. Ça a été chaudement applaudi par le public chinois de Shenzhen. Il est entré à un quart d'heure de la fin, Neymar, à la place de Verratti, et à la fin de la rencontre, quand il a fallu donner le titre, remettre le trophée au Paris Saint-Germain, on a vu un Neymar hurler de douleur. Vous avez vu ça?
C'est étonnant.
Il a hurlé de douleur parce que quelqu'un lui a marché sur le pied. Et après notre petite enquête, ce quelqu'un, et on le voit si vous regardez sur BFM Sport, c'est Marquinhos qui n'a pas fait exprès, son compatriote brésilien, qui lui a marché sur le pied. Bon, après, il y a plus de peur que de mal.
Il est sensible, hein.
Il a roulé ou...
ils étaient tous morts de rire.
Il a pas roulé?
Non, il n'a pas roulé, mais il a vraiment hurlé de douleur. Hein.
Écoute,
voilà.
Mais
en même temps, c'est normal, hein. C'est son pied qui a été opéré.
Et c'est ça.
5 mois sans jouer au Paris Saint-Germain.
Quand tu te cognes le petit doigt de pied contre un meuble,
ça fait très mal.
Très mal, par exemple.
Et ben, on hurle aussi, comme Neymar.
On fait des galipettes, oui. Allez.
On revient dans un instant en after. Restez avec nous, avec Jordan Olivier, qui est parfait en remplaçant de Samuel
Lucois.
Et, en plus validé par Jonathan McCarty. Jonathan McCarty reste également à 21h44. On revient dans quelques petites secondes. Et on parle de l'AS Monaco. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'AS Monaco après cette défaite? Lourde défaite face au PSG en trophée des champions. À tout de suite.
RMC. L'after. Jusqu'à 23h. François Pinet.
On est de retour dans l'after jusqu'à 23h, il est 21h46. Si vous nous suivez à la radio sur RMC ou à la télé sur BFM Sport, vous avez le choix, vous avez pu découvrir ce nouveau visage de l'after, Jordan Olivier, qui est toujours là, présent, de la grande famille Olivier et Olivier, vous les connaissez tous. Et puis Jonathan McCarthy, lui vous le connaissez par cœur, hein, voilà, toujours là, évidemment à 22h.
Parce que c'est ton projet.
Ah oui, ça c'est par rapport à
une ressemblance,
à une ressemblance lointaine, c'est ça.
Ah oui,
22h, on parlera de l'OM. Est-ce que l'OM est en train de passer à côté de son mercato? En tout cas, pour l'instant, ils ont l'air d'être en train, les Marseillais, de passer à côté de leur préparation. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais ils ont perdu lourdement face à Bournemouth.
Cet après-midi, ça veut dire quelque chose.
Appelez-nous au 32-16 pour en parler sur le hashtag RMC Live sur Twitter. Ou encore, bien sûr, on vous lira vos messages sur l'appli RMC Direct Studio. On va parler de l'AS Monaco. On a longuement parlé du Paris Saint-Germain, c'est normal. Ils ont remporté le titre de trophée des champions. C'est la 7e défaite de suite pour l'AS Monaco face à ce Paris Saint-Germain, toute compétition confondue. L'AS Monaco battu lourdement 4-0. Alors évidemment, on va parler un petit peu de la composition d'équipe alignée par Leonardo Jardim pour ce trophée des champions. Il manquait quand même Falcao, Zubazic, Sidibé qui ont disputé la Coupe du Monde. Il manquait aussi Almami Touré, blessé, ou encore Golovin, la nouvelle recrue qui n'était pas là. Sur le terrain, on avait le gardien remplaçant Ben Aglio, ou encore Radji, Glick, Jemerson, Serrano, Grand Cyr, Pelé, une nouvelle recrue, Aolou également, nouvelle recrue présente, Tillmans était titulaire, Jovetic et Rony Lopez en attaque. Tout ça pour dire que, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter quand on voit la composition de l'équipe de l'AS Monaco?
Vas-y.
Alors, moi je suis un peu mitigé, parce qu'effectivement, il y avait pas mal de joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer, qui sont plus habitués à des statuts de remplaçants, mais j'ai quand même l'impression que cette équipe de Monaco, elle se fait de plus en plus vieillissante. C'est-à-dire que Radji, au bout d'un moment, ça a commencé à devenir problématique, parce que d'accord, ce soir, il est capitaine, il encadre les jeunes, mais il a de plus en plus de, mal. Jemerson a des lacunes, j'ai l'impression qu'il les a masquées l'année du titre de champion, mais là, on voit quand même qu'il est souvent en difficulté. Alors effectivement, il manquait des joueurs comme Falcao, il manquait Golovin, il manquait Sidibé. Mais j'ai l'impression qu'on arrive aussi à une sorte de fin de cycle côté Monaco et qu'il faudrait renouveler une partie de l'effectif pour peut-être donner
des cadres. Avec des cadres.
Oui, effectivement.
Renouveler, ils renouvellent tout le temps. Hein,
ils renouvellent, mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont du mal à se séparer de certains cadres. Ils l'ont fait avec João Moutinho. J'ai l'impression qu'il serait temps pour certains joueurs comme Radji aussi de peut-être laisser
en place. Toi, tu veux en voir partir. Tu parles pas des possibles allées, parce que quand même
Radji qui est dans ce cas-là.
Par rapport à Monaco cette saison, il y a Moutinho qui est parti. Tu en as parlé, mais c'est pas le seul. Il y a surtout Neymar qui est parti, et Fabinho qui était quand même un joueur.
Tu sais ce qui m'inquiète en fait, très important par rapport aux autres saisons où à chaque fois effectivement il y a des départs et puis Jardim arrive toujours à bricoler quelque chose. C'est que là quand même t'as tout le centre névralgique de ton équipe qui est parti. Ton milieu de terrain entier. Fabinho, Moutinho, Thomas Lemar. C'est-à-dire les joueurs qui à la fois s'occupaient de l'organisation et de la création. T'as perdu les trois joueurs qui étaient au cœur du jeu de ton équipe. C'est vrai que Lemar, en 10, ça n'a pas été forcément une grande réussite cette saison. Mais ces trois joueurs-là qui partent, alors, c'est vrai que Moutinho, il arrivait au bout de l'histoire, hein, mais c'est quand même eux qui imprimaient en quelque sorte la personnalité et le style de cette équipe-là. Là, tu les as remplacés par des joueurs sur lesquels tu as beaucoup de doutes. Alors, à Olu, c'est bien, mais il va falloir qu'il se mette à niveau.
Il a fait une belle saison.
Il a un beau potentiel, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est quand même un joueur qui est plus en devenir. Golovin, on va voir.
Golovin, c'est une bonne recrue. Honnêtement, par rapport
à ce qu'on a vu de la Coupe du Monde. On sait jamais si ça va marcher tout de suite. Je te dis pas que c'est un mauvais joueur. Il arrive dans un nouveau club, dans un nouveau championnat. Et ben, peut-être qu'il va lui falloir un petit peu de temps.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour l'instant la tête de gondole du recrutement.
Tillmans, très bien. Comme potentiel. Mais cette saison, il va falloir qu'il montre. Après, comme il y a beaucoup de précédents à Monaco où t'as les joueurs qui mettent toujours une saison à s'adapter. Bernardo Silva, Thomas Lemar, toujours un petit peu discret voire mauvais la première saison et qui explosent la seconde. Espérons que ce soit le cas pour eux, que Tillmans fasse une grosse saison. Mais là, vraiment, je vais le répéter parce que ça me semble le point principal de la saison monégasque, c'est qu'ils ont perdu l'ensemble du cœur de leur équipe. Voilà.
Alors, ça, si on regarde quand même les joueurs qui restent, par exemple, tu parlais de ceux qu'on avait vus un peu moyens la saison dernière et qui peuvent très bien faire une grande saison, c'est Jovetic par exemple. Hein.
Il a toujours été bon quand il a joué, il faut juste qu'il se blesse pas.
Voilà, il y a Rony Lopez aussi qui a fait une fin de saison assez extraordinaire avec l'AS Monaco et qui fait aussi des matchs de préparation très intéressants.
Baldé,
Keita Baldé, qu'on n'a pas beaucoup vu aussi la saison dernière, ou en tout cas pas au niveau qu'on pouvait attendre de lui.
Ouais, il n'a jamais été à son niveau, la dialyste.
On est voilà, tous d'accord pour
si
dire
que ces joueurs-là sont à leur vrai niveau, à leur niveau en tout cas attendu, peut-être que Monaco peut encore faire quelque chose cette saison.
Le problème, c'est que ce soir, ils n'ont rien montré.
Je pense qu'ils n'avaient pas perdu d'avance.
Avant que tu dises ça, je vais rajouter un truc. C'est que Jardim, j'ai l'impression qu'il fait un sacré complexe maintenant face au Paris Saint-Germain.
Encore une fois,
il a pas mis son l'équipe, une équipe, c'est-à-dire l'équipe qu'il aurait voulu mettre. Il a mis une équipe qui, dans le sens, en 3-5-2, en disant, en gros, il a les chocottes du PSG à chaque fois, il sort des compositions improbables, des organisations improbables.
Ça fait longtemps que Monaco a ce sentiment d'infériorité face au Paris Saint-Germain. Je crois que sur les 18 derniers matchs face au PSG, ils en ont gagné 2.
Mais t'as pas l'impression que Jardim, il bafouille et cafouille à chaque fois pour jouer le PSG?
Ce soir, en tout cas, si on parle de ce soir, il fait aussi avec ce qu'il a en termes de joueurs. Donc, il est obligé de mettre des jeunes, il met des jeunes.
Non, mais le 3-5-2, c'était pas forcément une obligation quand tu regardes ce qu'il y avait sur le banc. Tu pouvais jouer avec Baldé d'entrée, je pense qu'il y avait d'autres choses à faire. Et rappelle-toi le match où ils perdent la rousse qui se prennent, où ils se ramènent encore avec 5 défenseurs en jouant totalement petit bras. Je pense vraiment qu'il fait un complexe d'infériorité face au
PSG. Après, t'as raison, il y a le système de jeu qui peut-être doit être revu, mais quand les joueurs sont sur le terrain, ils doivent aussi montrer des choses.
Bien sûr.
Aujourd'hui, offensivement, Monaco n'a pas montré grand-chose.
Ouais, mais avec qui est-ce qui joue? Il y avait quoi comme joueur offensif? Finalement, je jouais quasiment meneur de jeu avec deux avec Jovetic et un autre.
Et Ronnie Lopez. Et on attend que Lopez joue aussi ce rôle.
Et Grand Cyr aussi, qui est censé être un joueur offensif.
Ouais, c'est 2-3. C'est pas non plus, tu vois.
Non, bien sûr.
Non, mais on attendait Ronnie Lopez dans un registre un peu différent comme dynamiteur. Ce soir, il a pas montré grand chose. Jovetic,
il était bon aussi.
Enfin après, dans ce rôle de point d'ancrage devant, il est bon, mais faut qu'il convertisse les occasions.
Le truc, c'est qu'il a été bon, mais c'est pas du tout son profil de jouer
comme ça. Ce qui est marrant, c'est que vous parlez des forces offensives de l'AS Monaco, sauf que quand même Monaco et Jardim ont construit leur force sur une défense très solide. Là, si on regarde les résultats et les derniers résultats de l'AS Monaco, notamment en préparation, en plus de ce trophée des champions, ils ont perdu 3-1 contre Hambourg, ils ont fait 2 buts partout contre Bochum et ils ont perdu 3-2 contre l'équipe de Paderborn en Allemagne. La force défensive que représentait un Glick Jemerson que l'on a vu ce soir.
C'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'avoir perdu Fabinho. C'est lui qui était garant de l'équilibre du bloc équipe en entier. C'est lui qui réorganisait, qui réorganisait le bloc sur les phases de transition. C'est lui qui fait le petit pas en arrière, tu sais, quand tu bascules d'une phase à l'autre, qui fait que tout ton bloc redescend 10 mètres et que les lignes deviennent beaucoup plus serrées et que ton équipe d'un coup devient beaucoup plus solide. Je pense que c'est ça le vrai problème pour eux. Alors c'est vrai que Jemerson, la saison du titre, ça a l'air d'être un petit peu une chaudière, c'est-à-dire en surchauffe, très très bon pendant une saison. Et puis l'année dernière, on a vu quand même que certaines lacunes qu'il avait apparaissaient encore plus au grand jour. Mais j'insiste, là, il va falloir vraiment trouver le mec qui va mettre devant la défense pour faire quasiment ce rôle de troisième central sur les phases de transition, parce que c'est ça le vrai problème. Et Fabinho, ils l'ont pas encore remplacé. Un joueur aussi mûr, aussi intelligent, ça va être dur de trouver.
Alors, puisque la question c'est est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'AS Monaco sur la saison, on est tous d'accord pour dire l'objectif de l'AS Monaco, c'est la Ligue des Champions la saison prochaine.
Le podium,
donc oui, la Ligue des Champions.
J'ai compris que tu disais le Monaco que veut gagner.
Non, pardon. Le podium en Ligue 1 pour encore une fois la Ligue des Champions, puisque c'est toujours dans la façon de faire de l'AS Monaco, valoriser les joueurs pour les revendre ensuite et faire des belles plus-values. Est-ce que avec l'effectif qu'ils ont actuellement, même si ça peut changer encore, le mercato est encore long jusqu'au 31 août, est-ce qu'avec cet effectif-là, ils peuvent atteindre le podium de la Ligue 1?
La chance de Monaco, comme les années précédentes, c'est que faut voir où est la concurrence aussi derrière. Faut voir ce que va faire Lyon, faut voir ce que va faire Marseille. On en parlera tout à l'heure, mais Marseille en termes de recrutement, c'est pas beaucoup mieux pour l'instant. Donc la chance de Monaco, c'est que les autres derrière ont peut-être aussi du mal en termes de recrutement. Lyon a fait un bon recrutement, mais après, si on reste purement sur Monaco. On a souvent l'habitude aussi de s'inquiéter tous les ans pour Monaco, qui fait une préparation toujours un peu compliquée. Faut peut-être tempérer aussi ce qu'on dit. Jardim est un formidable formateur. Je pense aussi qu'il arrivera à faire grandir certains joueurs. On parlait de Tillmans, c'est un intermittent du spectacle, c'est-à-dire qu'il a montré des choses intéressantes, notamment en Ligue des Champions la saison dernière, sauf que c'était trop irrégulier. On sait que Monaco a un effectif de qualité, on sait que ce sont globalement des bons joueurs, voire de futurs très bons joueurs. Mais le problème de Monaco et de ses joueurs et de son effectif, c'est un problème aussi de régularité.
Et là, je pense que c'est un problème de temps, parce que l'année dernière, quand tu perds Benjamin Mendy, ok, c'est une grosse perte, hein. C'est un arrière latéral. Tu perds Bernardo Silva, c'est une grosse perte aussi. Mais t'as eu la chance d'avoir Ronny Lopez qui a fait le taf aussi. Tu perds Mbappé, bon bah ça c'est une très grosse perte et ça fait la différence entre une équipe qui peut être qui est champion et une équipe qui joue le podium soit. Mais là, je vais le répéter pour la troisième fois, t'as perdu l'ensemble de ton milieu de terrain. C'est ça qui est vraiment inquiétant.
C'est vrai que tu répètes. Hein.
Non mais ça m'inquiète vraiment parce que je sens pas le mec qui est. En fait, il y a plus de Tolly au milieu.
Est-ce que Leonardo Jardim peut encore faire des miracles? Ça fait 5 ans qu'il est là. Est-ce que son message passe encore? Est-ce que vous pensez qu'il a encore les clés à l'AS Monaco?
Oui.
On se dit que sans lui, de toute façon, l'AS Monaco n'en serait pas là.
T'as tout dit.
Bah, le projet de Monaco aujourd'hui, c'est Jardim. C'est Jardim, mais la base du projet de Monaco, c'est-à-dire que.
Oui, mais le projet de Monaco aussi, il faut aller en Ligue des Champions. On est d'accord, tous les ans, pour valoriser.
Et quel meilleur entraîneur que Jardim pour arriver à se qualifier en Ligue des Champions avec un groupe comme ça?
Et puis, quel autre entraîneur accepterait ce qu'accepte aussi Jardim actuellement, c'est-à-dire tous les ans de se faire piquer tous ses meilleurs joueurs?
Après, la vie est douce à Monaco aussi.
Si tu le dis.
Alors, il y a François Pitou qui nous dit sur le hashtag RMC Live, les deux premières places, ce sera Paris et Lyon. C'est quasi sûr à 99%.
Sur le papier, c'est vrai que...
Et puisqu'on parle de Lyon, Lyon pour l'instant est mené 1-0. C'est un match de préparation contre l'Inter. On y reviendra évidemment et on vous donnera le score.
But
à la
de
fin
Martinez.
De cette rencontre. C'est une équipe de Lyon très très diminué ou en tout cas une équipe vraiment bis hein, de l'Olympique Lyonnais. Pour finir sur Monaco ira à Nantes, ça sera le premier match le samedi 11 août à 17h pour la reprise de la Ligue 1. L'AS Monaco donc qui a perdu, on le rappelle, 4-0 face au Paris Saint-Germain et qui est passé à côté de son trophée des champions. On revient dans quelques secondes seulement, vous restez bien avec nous dans l'after. À 22h on part de l'OM qui a largement perdu son dernier match de préparation. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'OM? Est-ce que l'OM passe à côté de son mercato? Si c'est l'une des questions que l'on vous posera, n'hésitez pas à nous joindre sur le 3216 et on vous attend nombreux évidemment dans l'after sur RMC et sur BFM Sport. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'after foot.